Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Bamako et partout au Mali. Les principales informations de ce journal. Le plan d'action du gouvernement de transition a été largement voté hier par 102 voix pour 2 contre et 9 abstentions. Ce plan a été validé par les conseillers nationaux du Conseil national de transition après 11h du débat. Insécurité au sud et au centre du pays. Un jeune de 22 ans a été retrouvé hier décapité dans sa chambre au quartier Badjalan de la ville de Fana. Au même moment, les villages de Sonko, Farabougou et Dinakourou restent assiégés par des présumés djihadistes. Le syndicat national de l'enseignement supérieur envisage une nouvelle grève de 3 jours à partir de ce mardi. Selon les responsables, sur les 5 points de revendication, les autorités n'ont satisfait qu'une doléance. Je suis Arkia Touré. Nous dirons à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après des longues heures de débat hier au CICB, les membres du Conseil national de transition ont adopté le plan d'action du gouvernement de transition par 102 voix pour 2 contre et 9 abstentions. Si certains conseillers nationaux se disent prêts à accompagner le Premier ministre à mettre en œuvre ce plan, d'autres de leur côté demandent au chef du gouvernement de revoir le contenu. Ils réagissent au micro de Mahaman Baba Kunta.
Vraiment, je suis satisfait du plan. C'est un plan d'action cohérent, objectif, simple et qui répond à tous les besoins des Maliens. Le problème qui se pose, c'est le temps. Est-ce qu'il y aura le temps de l'appliquer? C'est le problème.
Nous pourrons dire que nous sommes satisfaits et nous allons continuer à accompagner cette transition et en espérant que les 4 actes déclinés pourront être mis en œuvre.
Si je me réfère au plan d'action déjà adopté au mois de février dernier et aux réalités sociopolitiques du pays, je pense que ce plan d'action est un peu prématuré.
Même s'il y a des insuffisances, on est satisfait parce que nous avons la possibilité d'orienter, d'évaluer et de suivre. C'est un plan d'action, comme tout travail, ce n'est pas parfait, mais déjà on a fait des recommandations et nous sommes prêts à orienter ce plan d'action.
Au cours des débats d'hier, les 4 axes du plan d'action du Premier ministre ont suscité des questions de la part des conseillers, mais la sécurité, l'organisation des élections, notamment l'organe unique et les assises nationales de la refondation sont plusieurs fois revenus dans les débats. À chaque question, le Premier ministre a apporté des réponses. Retour sur les temps forts de ce débat avec Amsetou Gogo Touré.
Le chronogramme des élections générales déjà publié en avril dernier sera maintenu. L'assurance a été donnée par le Premier ministre Choguel Kokalamaïga en réponse à la question d'un conseiller. Le chef du gouvernement propose la création d'un organe unique et indépendant de gestion des élections. Selon lui, l'objectif est de minimiser les contestations post-électorales et réduire le coût des élections. Sur la question des assises nationales sur la refondation de l'État, le Premier ministre explique qu'il s'agit d'opérer des choix définitifs, des propositions, des réformes et solutions issues des précédents débats. Aussi estime-t-il, il faut convenir des fondements nouveaux sur lesquels il faut bâtir l'État malien. Concernant la sécurisation du pays, le Premier ministre déclare que les autorités sont concentrées essentiellement sur les moyens normaux qu'un État doit avoir pour assurer sa sécurité. Il s'agit selon lui de renforcer l'effectif de l'armée, occuper le territoire et assurer le maillage nécessaire. Enfin, Choguel Kokalamaïga assure que des Maliens résidents du pays seront enrôlés au cours d'une opération spéciale qui est en cours de préparation.
C'est facile, vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux et sur nos pages Facebook ou le compte Twitter. Le village de Sonko dans la commune de Djabali est assiégé depuis le 3 juillet dernier par des présumés djihadistes. Selon des sources locales, ces hommes armés les interdisent toute entrée et sortie du village. Ils exigent aussi aux femmes le port du voile, expliquent les mêmes sources. Au même moment, les villages de Farabougou et Dinakourou restent aussi sous embargo des hommes armés non identifiés. Les explications avec Assetou Kanté.
Nous sommes privés de tout et il est impossible de vaguer librement à ses occupations. Se lamente ainsi un habitant de Sango, village situé dans le cercle de Djabali, région de Ségou. Selon ce dernier, des hommes armés leur imposent l'application de la charia.
Bon,
nous n'avons
plus de nourriture ni de médicaments. Des personnes sont même décédées des suites du manque de médicaments parce que nous n'avons qu'un seul médecin. Vraiment, il n'y a rien ici. Personne ne peut rentrer ni sortir. Ils sont armés. Ils sont venus nous dire qu'ils veulent que les femmes portent le voile partout où elles vont et qu'ils ne veulent pas voir aussi les dozos avec leur tenue. Depuis 2013, la population refuse de se soumettre à cette décision.
À Farabougou, toujours dans la même région de Ségou, la population est aussi désemparée. Selon des sources locales, ce sont des jeunes du village qui assurent un minimum de sécurité. Les habitants interpellent les autorités face à la situation.
Toute la commune est menacée actuellement. Diabali, Farabougou, Bourgouko. Nous, on est là, c'est la jeunesse même qui prend la garde ici. Ces gens-là, la nuit, ce sont des djihadistes. Dans la journée, ils laissent leurs armes dans les forêts, ils vont rentrer dans leur village. Il y a beaucoup de déplacés qui sont ici même. Mais pour nous, notre besoin, c'est d'aller cultiver. Parce que c'est une zone de culture.
Notons que depuis le 2 mai dernier, le même sort est infligé au village de Dinagourou dans la région de Mopti. Sous embargo des hommes armés non identifiés, des sources locales indiquent que la situation est au point mort et le village manque de tout.
À quelques kilomètres de Bamako, la ville de Fana s'est réveillée hier matin avec un nouveau drame. Selon des sources locales, un jeune de 22 ans a été retrouvé décapité dans sa chambre au quartier Badjalan de la ville. Les mêmes sources indiquent que cet homme du nom de Agibou Bagayogo est marié et père d'un enfant. Cet assassinat, dont les causes ne sont pas encore déterminées, porte à 10 le nombre de personnes tuées dans cette localité depuis 2018. Ibrahim Koulibaly, dit Gauthier, agent de la mairie de Fana, est joint au téléphone par Ousmane Niali Bouli.
On a bel et bien trouvé qu'il y a eu décapitation d'un jeune homme, communément on appelle Ba. Donc il a 22 ans et il a une femme et un petit enfant. Sur le terrain, on a trouvé que la maison, il est un peu isolé. Il habitait seul aussi dans la cour. Toutes les autorités étaient sur place devant la porte où il a été décapité. Il n'y a pas eu un auteur qui a été identifié. Il y a plus de des années, chaque fois, ces pratiques-là s'est vu à Fana ici, parce qu'il y avait plus de 20 personnes qui ont été prises à cause de ces pratiques-là. Donc ils ont tous été relâchés. Donc, jusqu'à preuve contraire, il n'y a qu'une seule personne qui est détenue par rapport à cette situation. Mais jusqu'à preuve contraire, la décapitation continue. Deuxième décapitation comme ça. 5 femmes et 5 hommes. Donc, les autorités vont faire leur travail. Ils sont en train de bel et bien faire leur travail. Mais c'est la population qui peut encore le renforcer pour la réussite de ce crime-là.
Sur un tout autre plan, le syndicat national de l'enseignement supérieur, SUNSUP, envisage une nouvelle grève de 3 jours à partir de ce mardi 3 août 2021. Ce nouveau déplacement des enseignants du supérieur a été précédé d'une grève de 3 jours aussi qui ont eu lieu en le 27, 28, 29 juillet dernier. Selon les responsables du syndicat, sur les 5 points de revendication, les autorités n'ont satisfait qu'une doléance. Docteur Abdou Malé, secrétaire général du SNSUP, au micro de Moussa Malé Sissoko.
L'augmentation de 2 ans de la retraite pour les anciens chercheurs seniors, les maîtres de conférence, les maîtres de recherche, les professeurs et les directeurs de recherche. Donc, il y a également le décret relu du statut des anciens chercheurs. Deuxième point de désaccord, c'est la prime de recherche. Ça fait 4 ans que cette prime n'est pas appliquée sur les salaires. 3 ans, c'est les arriérés d'heures supplémentaires depuis l'année académique 2016-2017 jusqu'en 2020-2021. Nous avons simplement demandé de nous donner un calendrier de le dernier désaccord. Ce sont des projets de texte qui doivent passer au Conseil des ministres. Prochain, ça c'est notre demande. Pourquoi on a fait cette grève perlée? C'est pour permettre au gouvernement, cas d'échec de la première phase des négociations, pour que le gouvernement puisse se préparer conséquemment. Jusqu'à présent, au moment T, le gouvernement n'a pas encore fait signe de vie.
À présent, les nouvelles des 9 bébés maliens nés le 4 mai dernier au Maroc. Ils se portent tous bien ainsi que leur maman. C'est en tout cas ce qu'affirme le père de ces nounouplés actuellement aux côtés de sa famille au Maroc. Selon lui, les bébés se sont sortis des couveuses, excepté un qui est encore sous respiration artificielle. Aussi, le père des 9 enfants dément les informations selon lesquelles ces nourrissons utiliseraient 100 de couches par jour. Écoutons Arbi Abdelkader, père de nounouplés, joint par Sekou Gadjigo.
Il se porte bio et pratiquement il y a 7 à 8 qui sont hors couvrage. Le poids aussi est bon, ça varie de 3,5 kg à 2,5 kg à part une qui est sous oxygène, mais elle aussi, son état, ça s'améliore de jour en jour.
Des informations aussi qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles ces 9 bébés utiliseraient une centaine de couches par jour et plusieurs litres de lait. Est-ce vrai?
Ce n'est pas vrai. Parce que l'information, moi aussi, j'ai entendu ça hier, je ne sais pas, avant-hier. Et là, automatiquement, je suis monté pour demander. Ils ont dit qu'ils ont expliqué à un journal de Daily Mail quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Alors, dire que les bébés utilisent en couche et puis ils prennent s'ils te laissent, ce n'est pas vrai.
À présent, parlons de l'actualité de la COVID-19 au Mali. Les autorités sanitaires ont enregistré hier lundi 2 nouveaux cas de COVID-19, 10 patients guéris et un décès. Ainsi, la situation cumulée se présente comme suit. 14 589 cas positifs, 534 décès, 13 958 guéris. La rubrique Actu COVID est présentée par Aïssata Diarra.
Les autorités sanitaires affirment que des nouvelles doses de vaccins sont attendues cette semaine au Mali. Selon elles, il s'agira du vaccin américain Johnson & Johnson. En plus de cela, d'autres vaccins AstraZeneca arriveront au cours du mois d'août et en début septembre, précise le président du centre d'immunisation. En attendant, certaines personnes qui ont reçu leur première dose avec AstraZeneca se disent préoccupées. Elles veulent savoir si s'administrer deux doses différentes ne va pas avoir un impact sur leur santé. Joint par Studio Tamani, Dr Ibrahim Diarra, président du centre d'immunisation, rassure.
Des annonces sont faites pour le mois d'août. Nous allons recevoir le vaccin AstraZeneca. Mais bien avant ça, nous allons recevoir le vaccin Johnson & Johnson qui a été offert par les États-Unis à travers l'initiative COVAX. Et nous allons recevoir 100 000 doses également de vaccin AstraZeneca. Pour ceux-là qui ont reçu la deuxième dose, nous ne sommes pas en train de faire la promotion de ce vaccin. Mais c'est un vaccin sûr et efficace sur les variants et notamment sur le variant Delta qui est en train de faire des épidémies dans les pays voisins.
Alors docteur, les personnes qui ont reçu leur première dose avec AstraZeneca, est-ce que c'est possible qu'elles reçoivent d'autres types de vaccins différents du premier?
On ne le conseille pas. Celui qui a reçu AstraZeneca de recevoir par exemple Johnson & Johnson ou bien Sinovac. Mais les recherches sont en cours pour voir la possibilité. Actuellement, celui qui a reçu sa première dose d'AstraZeneca il peut avoir sa deuxième dose jusqu'à 3 mois. La notion d'un mois là est révolue, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau.
À présent, place à la question d'auditeur répondue par professeur Akori Agignan, coordinateur national de la cellule de lutte contre COVID-19 au Mali.
Bonjour professeur, est-ce que c'est possible que le vaccin anti-COVID devienne payant à l'avenir comme le test PCR?
Non, je ne pense pas du tout parce que la vaccination fait partie des stratégies de prévention de toute épidémie. Comme le recommande le règlement sanitaire international, les méthodes de prévention pour protéger la population dans le cadre des épidémies relèvent exclusivement de la responsabilité de l'État. C'est pourquoi vous voyez les hospitalisations qui sont gratuites, les mesures de prévention traditionnelles, les ports du masque, etc. On a vu qu'ils ont des limites. Le vaccin, c'est un complément de ces mesures de prévention, donc il ne saurait en aucun cas être payant.
Ainsi prend fin ce numéro consacré au coronavirus. Merci à tous de l'avoir suivi. Le respect des mesures barrières peut vous protéger du coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Il est 8h passées du 13 minutes. Les informations en région. La finale du tournoi de la première édition de football intercommunal dans le cercle de Yamfoulila a été remportée par la commune de Gounyaka. L'équipe de la dite commune a battu celle de Baya au tir au but samedi dernier. Selon les autorités locales, l'objectif est de promouvoir le vivre ensemble et la culture de la paix entre les jeunes du cercle. Une centaine de représentants d'organisations de la société civile, des leaders communautaires et de services techniques ont échangé samedi sur le code de la route à Kuchala. Le thème de la rencontre a porté sur qui respecte le code de la route, sauve sa vie et celle des autres. Selon les organisateurs, elle a permis d'informer, de sensibiliser les participants, notamment des jeunes, sur des panneaux de signalisation. Elle a été organisée par les jeunes du quartier Coco Extension. Voilà, toutes ces informations sont disponibles sur notre site web www.studiotamani.org ou via mon 37 321. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je suis Arkia Touré, nous me direz assurer la technique. Bonne journée. La chenille de karité connue sous le nom de chitoumou est un aliment très prisé dans la région de Sikasso. Selon certaines croyances populaires, ces asticots provenant généralement du Burkina Faso a des vertus thérapeutiques. Cependant, des médecins expliquent que sa consommation abusive peut entraîner des conséquences sur la santé malgré sa richesse en vitamines. Les détails avec Adama Amadou Haïdara.
Grillé, en soupe, en sandwich ou tout cru, le chitoumou se vend à Sikasso à tout moment. Selon les revendeurs, le sac d'une contenance de 100 boîtes de tomates est cédé à plus de 150 000 francs CFA. Écoutons cette commerçante qui s'est exprimée sous anonymat.
J'ai commencé à vendre du chitoumou récemment. C'est ma tante qui en vend depuis plus de 20 ans. Ça vient du Burkina. On achète les 100 boîtes à plus de 150 000 francs CFA. On vend le non-cuit, le cuit et le frit aussi. La grande boîte est vendue à 2 000 francs, la petite à 1 000 francs. Les gens achètent vraiment.
Du côté des consommateurs, on explique que cette chenille est appréciée à cause de sa saveur et ses vertus thérapeutiques. Banzougou Kamate, consommateur.
Chacun a une sorte de croyance qui dit que le chitoumou, quand on en mange, permet de lutter contre les maux de ventre. Même quand on empoisonne un plat que vous mangez, le chitoumou permet de dissoudre les poisons qui sont dans le repas. Certains pensent que c'est un aphrodisiaque très très bien. J'en consomme beaucoup et je ne peux même pas passer, même si vous en vendez tout de suite, je serais très ravi d'en acheter.
Toutefois, les médecins reconnaissent les bienfaits de cet aliment sur la santé, mais préviennent des conséquences que sa consommation abusive peut provoquer. Docteur Filagnou Diallo, nutritionniste à l'hôpital régional de Sikasso.
Les chenilles sont riches en calcium, en potassium, en magnésium, fer et des vitamines comme la vitamine A, 2, E. Donc c'est un aliment qui est très riche en nutriments. Bon, comme tout aliment, consommé à l'excès, ça peut entraîner des effets néfastes. Donc ça doit être consommé avec modération.
Il faut souligner que certains habitants de la région estiment que les chenilles doivent être protégées pour garder cette tradition semée ancestrale du chitoumou. Face à la désertification, la chenille n'est presque plus visible dans la région de Sikasso, regrettent les habitants.